PFI.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est sérieux et c'est savoureux. C'est l'Irak de Ferhat Alani, journaliste né à Paris de parents irakiens. Tombé dans le chaudron de l'histoire irakienne peu avant la chute de Saddam Hussein, son amour pour la patrie de ses parents va prendre les contours du témoignage, puis du grand reportage. Correspondant à Bagdad entre 2003 et 2008, aujourd'hui installé à Dubaï avec son agence Inside Films, lorsqu'il ne collabore pas avec Le Monde diplomatique ou la revue Géo, il se met à pondre un objet aussi intime que sociologique, roman graphique intitulé « Le parfum d'Irak ». Et grâce à ce roman, l'Irak, c'est pas que sérieux, c'est aussi savoureux. Il y a des pastèques au fond de l'Euphrate, des chauffeurs de taxi proposant des cigarettes aux passagers, des filles qui s'épilent les sourcils et puis des glaces parfum abricot. Jusqu'à l'invasion du pays par les blindés américains, ça reste l'Irak rêvé d'un petit Français complètement irakien. Bonjour Ferhat Alani.
Bonjour.
Ce roman graphique est donc composé de 1000 tweets, 1000 fois 140 signes. Racontez-nous, ce sont de véritables tweets ?
Alors ce sont des tweets, mais que j'ai essayé de rendre un tout petit peu plus poétique en racontant une histoire au temps long sur un réseau social qui est Twitter, où tout va trop vite, où on ne trouve pas beaucoup de profondeur, et notamment sur l'Irak. C'était un petit peu par provocation en fait que j'ai commencé ce récit pour contrer à mon humble niveau l'analyse froide et chiffrée de la situation en Irak que l'on trouve sur les réseaux sociaux.
Et vous commencez à tweeter en 2016. Pourquoi 2016 ?
Mais justement, c'était au moment où l'Irak s'est invité à nous, malheureusement, avec les attentats en France. Et c'est à ce moment-là, surtout, que toute l'information sur l'Irak a été, à mon sens, dénaturée, où, encore une fois, le prisme de l'analyse se faisait sur la violence, sur la guerre, qui est une réalité. Mais j'ai voulu, avec cette histoire, raconter l'autre versant de l'histoire irakienne.
Alors, roman graphique illustré par Leonard Cohen, qui n'a rien à voir avec... devenu une web-série documentaire diffusée sur Arte en ce moment, et à partir du 8 janvier sur France 24. Et vous ouvrez le récit sur 1989, lorsque vous découvrez le pays, juste après la fin de la guerre Iran-Irak. Vous avez 9 ans à ce moment-là, Ferhat Alani. Le parfum d'Irak sur RFI. Voilà ce que ça donne.
Nous partons pour 2 mois, ma mère, ma sœur et moi. Mon père ne peut pas encore nous accompagner. Plus jeune, il était opposant politique. Il ne sait pas s'il peut rentrer au pays sans prendre de risques. Atterrissage à l'aéroport de Bagdad. Passé la douane, l'accueil devient chaleureux, arabe. Une centaine de membres de ma famille nous attend. Ma mère leur fait coucou de la main à travers la vitre qui nous sépare. Je porte une cravate bleue. Seuls 3 hommes moustachus, stoïques, restent un peu à l'écart. Ce sont 3 de mes oncles de Fallujah. Nous formons un convoi d'une 20aine de voitures. Musique à fond. Je suis frappé par la modernité du pays. Les autoroutes, les lampadaires, les voitures américaines. Nous nous arrêtons à un glacier. Je déguste l'une des meilleures glaces de toute ma vie. Parfum abricot. Le parfum de Bagdad.
M comme Madeleine de Proust.
Et oui, bienvenue et malhaba dans notre bestseller en sol majeur, Ferhat Alani. Parce que donc ce roman graphique est plein de Madeleine, ce parfum d'Irak.
C'est exactement ça. En fait, moi j'ai une mémoire olfactive ou disons sensorielle. Et tout ce que j'ai découvert en Irak, notamment en 1989, c'était effectivement la glace à l'abricot, c'était le thé irakien à la cardamome, les biscuits irakiens fourrés aux dattes. Et tous ces sens, toutes ces odeurs, tous ces goûts me rappellent des moments très précis de certaines situations.
Alors que vous rappelle la glace à l'abricot ?
Justement, me rappelle la découverte de l'Irak. À l'époque, donc, j'ai 9 ans, j'ai plein de clichés en tête. Le Moyen-Orient, pour moi, c'est les mille et une nuits, c'est les chameaux, c'est les dunes de sable, c'est Ali Baba. Et quand je pose le pied à Bagdad, je découvre un aéroport très moderne, je trouve des autoroutes goudronnées, des luminaires, des voitures japonaises et américaines. Et sur la route de l'aéroport, on s'arrête à un glacier et ce moment m'a marqué. Donc ce parfum abricot, pour moi, c'est effectivement ma Madeleine de Proust.
Mais ces Madeleines vont tragiquement disparaître finalement. Avec l'embargo, que devient votre glace à l'abricot ?
En 92, donc 3 ans après cette glace à l'abricot à Bagdad, j'ai 12 ans Et avec ma petite sœur, on cherche cette glace à l'abricot et on ne la trouve pas. Parce qu'il y a un embargo tellement strict que l'importation du sucre est proscrite. Et quand on se retrouve dans cette épicerie ou dans ce glacier, on nous dit à la place, par exemple, du chocolat, on vous a mis des dattes. Et ça, c'est très choquant pour un enfant. Et cette petite anecdote raconte aussi la tragédie de cet embargo.
Alors, ce roman graphique, il permet de découvrir une certaine sociologie irakienne et puis aussi les questions géopolitiques, mais là, vécues de l'intérieur, s'ouvre sur votre enfance, Ferhat, et sur votre album familial, avec donc une branche paternelle et maternelle d'origine sociale très différente, une branche qui vient de Fallujah et l'autre de Bagdad. Ce sont deux univers très différents.
Très différents. En fait, Bagdad, vraiment pour comparer de manière assez simple, est cette capitale ultra-moderne, citadine, avec des intellectuels qui ont des journaux dans les mains, qui lisent dans les cafés, etc. À Fallujah, c'est beaucoup plus rural, plus traditionnel, un peu plus conservateur. Et c'est seulement à 50 km à l'ouest de Bagdad. Et donc, c'était un petit peu notre Normandie à nous, Fallujah. On y allait en week-end, au sein de ma famille, et je voyais tout de suite, enfant, la différence. Mais encore une fois, des exemples d'enfants. À Bagdad, c'était prospère, nous avions des jouets à la maison. À Fallujah, pas du tout.
Mais vous dites que Fallujah avait une identité très forte. Les tribus sunnites y ont contribué, d'ailleurs.
Oui, elle a une identité très forte, de par son histoire, mais aussi de par les personnages que je rencontre. Mes oncles sont des hommes très charismatiques, très fiers de leur ville. La tribu est beaucoup plus importante à Fallujah qu'à Bagdad, c'est évident. Et ça, effectivement, dans l'histoire, ça a eu un impact.
Des oncles militaires qui gagnent des salaires de misère.
Pour donner un exemple très précis, l'un de mes oncles, qui avait été décoré en plus pour sa participation à la guerre contre l'Iran, gagnait 3000 dinars en 92. 3000 dinars, avec ça, on ne pouvait même pas acheter de la viande.
Et donc, pour boucler les fins de mois, on fait chauffeur de taxi ou autre.
Et c'est le métier par excellence lorsqu'on n'a pas les moyens à Bagdad. On fait chauffeur de taxi et lorsque l'on discute avec ces chauffeurs de taxi, on se rend compte qu'ils sont soit professeurs, soit militaires, soit ingénieurs et qu'ils font ça pour gagner leur vie.
Été 90, l'Irak se retrouve sur tous les écrans de télé et pour cette web-série documentaire, vous utilisez autant le film d'animation que les archives télé, Le Parfum d'Irak, extrait.
Bonjour, c'est la guerre depuis ce matin, la guerre entre l'Irak et le Koweït. Les troupes de Saddam Hussein sont dans la capitale.
Durant 7 mois, l'Irak occupe le Koweït. En janvier 1991, la communauté internationale riposte.
Voici maintenant un document pour l'histoire. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi à Bagdad, la première vague de bombardements lancée par les Américains.
Mon père, exilé politique, est un adversaire de Saddam. Mais ce soir, il soutient l'armée irakienne. Il pense certainement à sa famille sous les bombes. C'est la première fois que je le vois ivre. Allez, mes frères. Très vite, les premières images de soldats irakiens prisonniers apparaissent. Ma mère croit reconnaître l'un de mes cousins. Le lendemain, dans la cour de récréation, tout le monde parle des feux d'artifice à la télé. Je suis le seul Irakien de l'école. Naïvement, je m'attendais à être soutenu par mes frères arabes. Les Américains vous ont niqué. Je suis en classe de 6e. C'est la première fois que je me bagarre, pour une raison politique.
Ferhat Alani en voix off de ce parfum d'Irak. Première question en sol majeur sur RFI. Pourquoi ce mélange des genres entre films d'animation et archives ?
Mais parce qu'en fait, avec cette démarche qui est de raconter une histoire assez personnelle, j'essaie d'être pédago sur l'information. Et donc, c'est-à-dire que lorsque je raconte une petite histoire, j'essaie derrière de raconter la grande. Et les archives nous servent à contextualiser la situation, notamment pour la simple et bonne raison que ces archives nous marquent.
Première question intime aussi, pour quelle raison donc votre père fait de la prison sous Saddam ?
Mon père était opposant politique. À l'époque, dans les années 70, Saddam Hussein n'était pas encore le président du pays. Il était vice-président, mais c'est lui qui tenait les rênes des services de sécurité. C'est lui qui mettait en place ce qu'on peut appeler des purges contre l'opposition. Et mon père était de cela. Il était de tendance de gauche et même trotskiste, pour le dire. Et il était en même temps fonctionnaire au ministère de la Jeunesse. Donc il avait un accès, si vous voulez, aux institutions. Et en même temps, il militait. Et un jour, il distribuait des tracts. Et puis on est venu le chercher dans la nuit pour le jeter en prison dans celle qu'on appelait Qasr al-Nihay, le château de la fin ou le palais de la fin, qui veut tout dire. À l'époque, on n'en sortait pas vivant. Lui s'en est sorti parce qu'il était un militant, on va dire, pas très dangereux pour le gouvernement.
C'est quoi un militant pas très dangereux ?
C'est-à-dire qu'il était jeune, il n'était pas ministre, alors qu'en prison, mon père m'avait raconté qu'il y avait des ministres avec lui, des gens qui auraient pu faire basculer le pouvoir, par exemple. Mon père était jeune militant, et lorsque mon père a été libéré au bout de 3 mois, il a décidé de quitter le pays et de revenir un jour, et finalement, il est resté plus de 20 ans.
Mais avant ça, vous savez qu'à sa sortie, il a eu droit à un petit rituel assez étrange.
Exactement. Il a été reçu, avec d'autres, par Saddam Hussein en personne. Mon père,
dans
en tout cas...
Une mise en scène
dans un palais majestueux, et avec une leçon de morale. Saddam Hussein a dit à mon père et aux autres, en gros, revenez vers moi, sachez que cette période en prison n'est pas quelque chose qui n'est pas pardonnable. En gros, je vous pardonne, mais pour la faire de manière très simple, fermez la bouche.
Alors comme c'est un roman graphique à la fois politique, je dirais, et très intime, on en vient évidemment à vous, Ferhat Alani. La déchirure va commencer pour la famille d'ici et de là-bas, et pour vous, petit Français d'origine irakienne, parce que c'est pas simple pour vous de vivre cette histoire, ni en France, ni en Irak. J'aimerais que vous nous racontiez la fameuse anecdote de vos baskets.
Nous étions en 1992, et j'avais au pied une paire de baskets qui coûtait une somme faramineuse, et on se rend... C'était 900 francs à l'époque. Nous sommes allés en Irak, et donc c'était l'embargo. Et naïvement, moi j'avais 12 ans, j'avais cette paire de baskets au pied et j'ai été abordé par des enfants de manière pas du tout agressive, mais qui me posaient des questions et qui se sont focalisés sur mes chaussures. Et quelqu'un qui était beaucoup plus âgé m'a tendu des clés et m'a proposé d'échanger sa voiture contre ma paire de baskets. Donc j'ai vraiment cru à une blague d'abord, et ensuite, lorsque j'ai vu que c'était vrai, j'ai été vraiment embarrassé et ça m'a choqué.
Oui, c'est un moment clé hein, pour vous. À ce moment-là, finit l'insouciance de vivre en France confortablement, ça n'a rien de normal finalement. Finit aussi d'être d'abord français dans votre tête.
Mais oui, c'est deux choses à la fois. C'est d'abord réaliser que je suis un privilégié et surtout me rendre compte que j'aurais dû, moi, naître en Irak. C'est un sentiment de culpabilité qui est né à ce moment-là. Ça a vraiment été un tournant pour moi et c'est, je dirais même que j'ai eu une conscience politique à ce moment-là.
L'Irak, dans votre roman, prend le visage de la vie. C'est ce que dit le rappeur D6, votre ami, votre comparse, votre allié. Apparemment, il préface ce roman graphique. On vous suit aussi dans la manière que vous avez de décrire les multiples conséquences de l'embargo sur le quotidien des Irakiens et sur les membres de votre famille, sur votre cousin Ziad par exemple qui a 16 ans et qui a une malformation cardiaque, ou sur votre oncle Saad qui a le pied amputé. Quelles conséquences a l'embargo sur leur maladie ou sur leurs problèmes ?
Sans grande surprise, quand on ne trouve même pas de sucre en Irak, on est loin de trouver les médicaments qu'il faut lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est handicapé. Pour parler de Ziad, comme vous le citiez, Ziad avait une malformation cardiaque assez importante et il devait subir une opération et c'était impossible en Irak. Mon oncle Saad, qui lui a été blessé durant la guerre contre l'Iran, devait recevoir des médicaments qu'on ne trouvait qu'en Allemagne à un moment donné, impossible de les importer. Et donc il a fallu se débrouiller au niveau local. Je rappelle que cet embargo a fait plus de 500 000 morts auprès des enfants, de manière générale plus d'un million de morts.
Et puis vous rentrez aussi dans les dossiers politiques. Vous nous racontez la position des hommes de la famille vis-à-vis du parti Baas.
Et ça évolue. Mes oncles étaient donc des militaires qui ont dû prendre la carte du parti Baas. Et je le pense, ils étaient adhérents volontaires au départ. Et ensuite, lorsqu'ils connaissent la seule année de paix qui est 89, puis juste derrière l'invasion du Koweït, puis l'embargo implacable, ces mêmes militaires critiquaient presque ouvertement Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, je pense, a eu... C'est ce réflexe de faire évoluer le parti Baas en fonction de ce qu'il entendait au sein de la population. Et dans la misère sociale et économique de ce qu'est devenu l'Irak, les Irakiens dans leur ensemble se sont tournés vers la religion. Et c'est à ce moment-là, un peu plus tard, en 96 précisément, que Saddam Hussein a lancé la campagne de la foi et a fait inscrire le terme « Allahu Akbar, Dieu est grand » sur le drapeau irakien. Il a acheté en fait tous ces militants en colère qui étaient baassistes laïcs et qui se sont rapprochés de la religion.
Comment votre père, donc opposant au régime, et comment les hommes de la famille qui n'étaient donc pas au parti, comment est-ce qu'ils ont vécu la chute de Saddam Hussein en 2003 ?
En fait, si vous voulez, je suis quasiment sûr que 99% des Irakiens, à cause de ces 12 années d'embargo, voulaient le départ de Saddam Hussein. Le régime est tombé le 9 avril 2003 et tous les Irakiens ont espéré à un moment donné voir leur pays s'ouvrir. Sauf que dès le lendemain, lorsque les chars se sont installés dans Bagdad, on a compris que c'était pas une libération mais une occupation.
Donc, on en vient à regretter Saddam Hussein.
Alors avec le temps, oui. Je peux vous le dire, moi j'ai beaucoup de témoignages, je suis allé dans tout le pays à la rencontre d'Irakiens de toute confession, de toute ethnie. Les années après, on regrette non pas le personnage, mais l'époque où on pouvait se rendre du nord au sud sans problème, où la vie a été moins chère, où les institutions étaient malgré tout efficaces, où le taux d'alphabétisme était de 100% quasiment sous Saddam Hussein. Donc c'est surtout pas pour dire que Saddam Hussein était, on va dire, un enfant de cœur, au contraire, mais l'époque était meilleure pour beaucoup d'Irakiens.
Le temps où on trouvait encore des glaces à l'abricot.
Exactement.
On va continuer cette conversation en sol majeur, mais vous savez que dans ce portrait, il y a du sol majeur et du fa dièse, enfin ça dépend. Donc c'est maintenant avec une voix venue des États-Unis, celle de Lee Fields, un chanteur à voix que vous avez programmé en sol majeur. Pour quelle raison, Fera Talani ?
Peut-être la nostalgie, parce que ces chansons évoquent beaucoup de choses tristes et je crois par nature être nostalgique. Donc même si c'est loin de l'Irak, ça me rappelle une période heureuse que je n'arrive pas à retrouver.
Qui en a, comme on dit, celle de Lee Fields dans l'ensemble majeur de Fera Talani sur RFI, grand reporter franco-irakien qui n'a pas connu le Bagdad des mille et une nuits, et non, mais le Bagdad parfum abricot, ça oui. On s'immerge aujourd'hui dans sa web-série documentaire Le Parfum d'Irak, qui nous fait revivre l'année 2011.
En 2011, à la veille du départ des soldats américains, j'ai l'autorisation de les filmer une dernière fois. Au début de la guerre, ils sortaient à pied dans les rues de Bagdad. Ils discutaient avec les gens. Après 5000 morts dans leur rang, les soldats n'ont plus aucun contact avec les Irakiens. Ils ne sortent plus de la zone verte qu'en hélicoptère ou en voiture blindée. Ce soir-là, au fil de la conversation, j'ose leur dire, pour la première fois, je suis irakien. J'avais peur de jeter un froid, mais ils sont curieux. Ils me posent plein de questions. C'est comment la vie à Bagdad ? C'est quoi la différence entre sunnites et chiites ? entre les Arabes et les Kurdes. 8 ans après leur arrivée, ils ne savent toujours rien. Ce soir, j'ai l'occasion de les regarder dans les yeux et de leur dire ce que je pense.
M comme message personnel.
Car en fait, Ferhat Alani, ce roman graphique est une manière de dire vos 4 vérités aux puissances étrangères sur le traitement qu'elles ont réservé à l'Irak.
Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre position, même quand on est journaliste. Je ne suis pas militant politique, je suis journaliste, et j'ai un point de vue. Et mon point de vue n'est pas, on va dire, de donner à 50% du temps la parole pour caricaturer aux gentils et 50% du temps aux méchants. L'idée, c'est aussi de raconter une vérité. La vérité qui est la mienne, qui résulte de l'objectivité de faits que je rapporte depuis 2003. Et donc lorsque j'ai l'occasion, moi, de rencontrer les Américains après 4 ans passés dans la zone rouge, ce qu'on appelle la zone rouge, là où vivent les Irakiens, je constate qu'ils ne connaissent pas le pays, que souvent ils font n'importe quoi. J'ai été témoin de ça. Lorsqu'on sort en opération avec eux, on voit qu'ils sont totalement dépassés par la situation et qu'ils n'ont, on va dire, aucune préparation, ne serait-ce que pour aborder les Irakiens. Et lorsqu'ils ne savent pas la différence entre sunnites et chiites, entre arabes et kurdes, alors qu'ils sont censés apporter la démocratie et une forme de stabilité, moi, ça me choque. Et même en tant que journaliste, je me dois de leur dire et de leur apporter dans mes reportages.
Et vous dites, puisque c'est la phrase clé, qu'ils ont finalement libéré 1000 dictateurs en voulant en abattre un seul. Et vous dites vos 4 vérités, Ferhat, finalement, en vous déclarant irakien.
Exactement, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé comme une force en Irak. Le fait d'être irakien m'a donné accès aux Irakiens, ce qui n'était pas évident.
Mais vous n'êtes
à
pas
l'époque.
Qu'Irakien.
Exactement, et donc j'alterne, si vous voulez, entre ces capacités ou ces opportunités que j'ai, c'est-à-dire, pour être très précis, lorsqu'on est français en Irak, on a des accès à la fois aux Américains ou aux institutions qui sont beaucoup plus facilitées, et avec mon identité d'Irakien, ma langue irakienne que j'emploie là-bas, j'ai accès à la zone rouge. Donc j'ai conscience à ce moment-là d'avoir accès aux deux. Ce qui n'était, encore une fois, pas évident à l'époque.
Rien n'est évident, finalement, dans votre parcours, pour vous qui êtes né en France de parents irakiens. Comment est-ce que l'Irak est devenu votre métier ?
Mais en fait, si vous voulez, c'est une thématique tellement universelle. Toutes les personnes qui ont une double identité ou une double culture sont mises en face de cette question à un moment donné. Sauf que moi, je suis né en France de parents irakiens et l'Irak n'a pas d'histoire coloniale, par exemple, avec la France, n'a pas d'histoire en particulier avec la France. Et donc, je me sentais déjà différent parmi les différents. Je ne pouvais même pas m'identifier à mes amis qui était soit, donc, pour dire, le dire vulgairement, français de souche ou français d'origine maghrébine ou africaine, qui eux avaient une histoire avec la France, moi non. Et c'est lorsque j'ai découvert l'Irak, enfant puis adulte, que je me suis forgé cette identité de franco-irakien.
Mais vous écrivez, page 55 du Parfum d'Irak, « Un soir, chez mes parents à Nanterre, le journal télévisé d'Al Jazeera annonce des images difficiles de Bassora. Nous sommes le 25 mars 2003. » La caméra s'enfonce dans un hôpital détruit par les missiles américains, des cadavres d'enfants cendrés parmi les débris, sans filtre, à terre. J'aperçois l'un d'entre eux dont la tête est à moitié arrachée, petit corps jeté dans les décombres comme une poupée abandonnée. Ma mère pleure, mon père est taiseux, je me lève et me dirige vers la salle de bain, fou de rage, je casse la porte d'un coup de poing. C'est-à-dire que là, il y a quand même une histoire de passage à l'acte, pour employer un terme un peu psy, comme ça, chez vous, Ferhat Alani. Votre engagement ou votre révolte contre l'injustice qui accable l'Irak fait que vous devez faire quelque chose. Ne rien faire pour ce pays est impossible, à vos yeux.
C'est exactement le terme. C'est le terme injustice que je rencontre à ce moment-là. Parce que je vois aussi ce pays sombrer, je vois à travers ces enfants tués suite au bombardement, toute une nation sombrée. Et donc je sais à ce moment-là que je vais aller en Irak pour témoigner, tout simplement.
Vous êtes devenu journaliste par patriotisme, vous diriez ?
Ah, c'est une bonne question. Je crois qu'on peut employer des termes comme le patriotisme sans que ce soit péjoratif. Moi, c'est un patriotisme amoureux. Plutôt que par patriotisme, c'est par amour, en fait, pour le pays de mes parents, que j'ai commencé mon métier. Et je sais, à ce moment-là, qu'il faut que je le fasse, tout simplement. Il faut que je le fasse.
Par amour. Et la notion d'amour en arabe, c'est pas rien, ça. Hein.
C'est vaste. C'est vaste. L'amour, c'est quelque chose qui peut être tabou dans la société irakienne, mais aussi dans le monde arabe de manière générale. Mais en même temps, le terme qu'on emploie le plus, même entre hommes en Irak, c'est Habibi, mon amour, mon chéri. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas eu de problème à l'employer, ce terme, pour l'Irak.
Vous avez 37 ans, Ferhat Alani, et je suis sûre que ce n'est pas par hasard si vous avez des cheveux blancs.
Exactement, moi je les ai eus en Irak. J'ai passé 5 ans sur place, il m'est arrivé des choses difficiles.
Vous parlez du moment où vous étiez correspondant à Bagdad, entre 2003 et 2008 ?
Exactement, donc durant l'année 2006, qui était l'année noire de la guerre interconfessionnelle entre milices sunnites et chiites. Moi, je porte un nom de famille qui est sunnite par essence, donc je ne peux pas me cacher. Et j'ai pris une photo un jour dans la rue d'une arrestation qu'un policier était en train d'effectuer. Et ce policier était, à mon sens, un milicien déguisé qui m'a arrêté, qui m'a demandé mes papiers. Et lorsqu'il a su que j'étais sunnite, a tout de suite répondu que j'étais un terroriste et il a brandi son arme, il a tiré en l'air, il a posé le canon de son arme sur ma tempe et il a annoncé qu'il allait me tuer. Et à cette époque, c'était vraiment crédible. On retrouvait une centaine de cadavres par jour dans les rues de Bagdad et ça a été un choc émotionnel très fort parce que à ce moment-là, j'ai vraiment vu la mort en face. Et j'ai vu ma vie défiler, j'ai vu ma mère. Et puis voilà, il est arrivé tout un tas d'événements comme ça où un jour j'étais face à des soldats américains dans la nuit qui faisaient une opération dans le quartier et le rayon de leur laser a parcouru mon corps et donc j'ai su qu'à un moment donné ils pouvaient tirer et que j'aurais pu mourir dans un quartier de Bagdad à l'abri des regards. Donc c'est des moments comme ça très dur.
Mais vous étiez prêt à aller jusque-là. Le métier de journaliste, vous le concevez de cette manière-là?
Oui, je crois que j'avais peur, mais pour avoir peur, il faut être conscient qu'il existe un courage. Et donc, je pense, en toute modestie, avoir été courageux dans le sens où j'ai maîtrisé cette peur.
Retour sur 2004 avec Shake and Bake, qui veut dire secouer. Et cuire, c'est le nom donné à l'opération militaire de la bataille de Fallujah qui a fait 3500 victimes civiles irakiennes. Et vous, Ferhat Alani, vous avez enquêté sur les armes prohibées utilisées par les États-Unis et qui ont provoqué de multiples malformations congénitales. Enquête au cœur même de l'hôpital de la ville, les enfants sacrifiés de Fallujah, extrait.
Il a besoin d'une opération. Pour l'instant, il est trop faible, donc on le garde en observation. Nous avons pu voir beaucoup d'autres types de déformations. Il y a des bébés qui naissent sans crâne, sans organes, ou parfois les jambes sont complètement tordues.
Regardez-moi ces petites jambes.
Aujourd'hui, je déconseille fortement à toutes les femmes de la ville d'avoir des enfants.
Ferhat Alani sur RFI, l'explosion de ces malformations congénitales vous amène à enquêter auprès d'anciens soldats américains, auprès des autorités irakiennes qui ne vous diront rien d'ailleurs, parce que Fallujah est une ville rebelle, et il y a une sorte d'omerta autour de cette ville. Vous enquêtez aussi auprès d'experts tels que Chris Busby, scientifique britannique spécialiste de la radioactivité, qui vous apprend quoi ?
Il m'apprend que le taux de radiation à Fallujah et le taux de toxicité est bien supérieur à celui d'Hiroshima à l'époque. Tout cela parce qu'il y a eu deux batailles à Fallujah en 2004, en avril puis en novembre. Les Américains, avec l'armée irakienne, ont bombardé la ville avec des armes toxiques qui contiennent entre autres de l'uranium appauvri, certains disent enrichi, du phosphore blanc, du tungstène, enfin tout un tas de matières toxiques. Et il se trouve qu'après cette bataille, des enfants naissent déformés, le taux de cancer a explosé et il est impossible de pénétrer la ville de Fallujah. Il y a effectivement une omerta, il y a un tabou qui est la ville de Fallujah par ce qu'elle représente. Et étant moi-même donc originaire de cette ville, j'ai accès à la ville grâce à des cousins qui travaillent auprès de la police et qui me font passer sous le cordon sanitaire américain qui bloquait en fait l'entrée et les sorties. Et à ce moment-là, j'ai des habitants de la ville qui viennent me voir avec des photos parce qu'au départ, les histoires sont tellement horribles et incroyables que j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Mais lorsque je vois des photos, là, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'atroce qui se passe et il faut raconter. Et donc, j'ai rendez-vous à l'hôpital de Fallujah où on me donne un chiffre. On me dit qu'en gros, une naissance sur cinq est une naissance de bébé déformé.
Est-ce que l'Irak, Ferhat Alani, est toujours votre métier ?
Mais en quelque sorte, oui, parce que c'est là que j'ai fait mes premiers pas de reporter. C'est là que j'ai mené des enquêtes. C'est le pays de formation pour moi.
Je dis ça parce que vous êtes installé aujourd'hui à Dubaï. Pourquoi ce choix ?
Dubaï est en plein cœur du Moyen-Orient. C'est un endroit encore paisible où on peut travailler.
Vous avez un œil d'aigle sur le Moyen-Orient de Dubaï.
Exactement, c'est ça. Je peux voler vers les pays voisins que sont l'Irak, l'Iran ou le Liban facilement, beaucoup plus facilement que si j'étais à
Paris. Vous connaissez Matthew Hedges ?
Oui.
31 ans, je le dis pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, donc inscrit en doctorat à l'université de Durham. Il a été arrêté en mai dernier à l'aéroport de Dubaï. Le sujet de sa thèse, qui était consacré à l'impact du printemps arabe sur la politique sécuritaire émiratie, a intrigué l'un de ses interlocuteurs qui l'a signalé aux autorités. Il a été détenu à l'isolement et inculpé le 10 octobre dernier d'espionnage pour le compte d'une entité étrangère. Et il a failli, il a écopé, disons, d'un verdict terrible, en l'absence de son avocat d'ailleurs, prison à perpétuité. Et puis finalement, il a été gracié il y a quelques jours par les Émirats. Mais est-ce que ce climat, ce genre d'affaires dans ce coin du monde vous étonne ?
Non, c'est pas très étonnant. Il y a la configuration géopolitique depuis 2003, en l'occurrence, pour parler de l'Irak, a donné des régimes ultra paranoïaques. Et donc, avec, si vous voulez, cette guerre par proxy que se livrent l'Iran et l'Arabie Saoudite, à la fois en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs, il y a tout un tas de suspicions sur des personnages.
Vous savez que depuis l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi, la région n'aime pas tellement les journalistes qui fouinent. Donc, qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Mais c'est plus une base, en fait, pour moi. C'est une base où je peux explorer des choses dans la région. Mais c'est bien d'y être aussi parce qu'on rencontre des gens, notamment à Dubaï, qui sont d'Asie, d'Afrique et d'Orient et du Moyen-Orient. On a accès à des personnes qui voyagent dans la région. Donc, c'est aussi c'est une bonne source d'information, les Émirats.
Vous faites du tourisme journalistique ? Vous allez tenter de nous faire croire ça ? Vous avez une agence qui s'appelle Inside Films ? Qu'est-ce que c'est que cette agence ?
C'est une agence de presse qui me permet de produire des reportages, notamment pour la chaîne française, dans la région et un peu partout d'ailleurs. Je ne me limite plus à l'Irak ou au monde arabe. J'essaie de voir aussi ailleurs. Je garde toujours un pied et un œil sur mon pays, qu'est l'Irak, mais je m'intéresse aussi à d'autres contrées.
Donc vous parlez de l'Irak, votre pays, et la France. Est-ce que c'est un choix aussi de votre part de ne pas vivre en France ?
Pour le moment, oui, parce que même si je me sens évidemment français, c'est ma langue maternelle, je suis né en France, voyager fait partie de mon métier. Et donc, pour moi, il est intéressant d'aller voir ailleurs.
Vous vous souvenez d'un certain Dominique de Villepin, j'imagine ? Le monde se souvient du Premier ministre français, au moins pour un certain discours.
Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse,
l'usage de la force,
quand et comment nous allons céder à la guerre.
Il y a une alternative à la guerre.
Je voudrais dire que rien, à aucun moment,
désarmer l'Irak,
au sein de ce Conseil de sécurité, ne sera le fait
de plus
de la précipitation,
le recours prématuré,
de l'incompréhension,
militaire,
de la suspicion
serait lourd,
ou de la peur.
Conséquence.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal.
L'autorité de notre
nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
D comme 12 France.
Discours célèbre de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003 et que vous souhaitiez réentendre.
Oui, j'adore ce discours parce qu'il révèle non seulement une position vraiment différente. À l'époque, il faut rappeler que le monde entier pensait, en tout cas, on a fait le lien entre Saddam Hussein et le 11 septembre. Et de Villepin, à un moment donné, a dit non. Et en Irak, je me souviens que les gens venaient me voir lorsqu'ils savaient que j'étais de France pour me remercier directement. Et ils me prenaient presque pour un ambassadeur de France. Et ils me disaient « Dites à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin, merci. »
Cela dit, ce nom de la France à la guerre en Irak fait que votre cœur français était peut-être pour la première fois au diapason avec votre cœur irakien.
C'est exactement ça, en fait. Lorsque j'y suis allé, encore une fois, juste après, j'étais en total... accord, non seulement avec la politique de la France à l'époque, mais aussi avec mes convictions de franco-irakien.
En tout cas, ce sentiment d'injustice qui fait que vous êtes devenu journaliste et qui fait qu'on a ce parfum d'Irak entre les mains aujourd'hui, cette fibre en vous, elle vous travaille rageusement depuis presque toujours. Et apparemment, vous avez trouvé des réponses aussi auprès de figures qui touchent en général le monde noir ou afro-américain. Je pense à Malcolm X et Mohamed Ali dont vous m'avez parlé. Pourquoi ces deux figures vous ont aidé et en quoi ?
Mais c'est justement parce que ces deux figures, à un moment donné, ont eu une quête vers une identité complexe, encore une fois. Identité, ça peut être aussi bien au niveau religieux que culturel. Et ces figures charismatiques ont prouvé à l'époque, et c'était pas du tout évident, qu'on pouvait taper du poing et s'affirmer politiquement, culturellement. Et donc ce sont des exemples pour moi, pas seulement pour le discours qu'il tenait, parce que ça n'a pas de rapport direct avec l'Irak, mais dans le sens où moi-même je me recherchais au niveau identitaire, au niveau culturel, même au niveau religieux, même si je sais d'où je viens. Et ces personnes-là, pour moi, sont des figures qui ont dit non à un moment où il était très difficile de le dire.
Et alors justement, l'islam sunnite, puisque c'est la religion familiale, est-ce que ça vous a aidé aussi à trouver des réponses ?
Tout à l'heure, quand je vous disais que je prenais en gros le meilleur de la France et le meilleur de l'Irak, c'est pareil pour la quête identitaire et religieuse. La religion, pour moi, est vraiment de l'ordre du privé. Je prends le mot laïcité au sens propre, où je n'ai pas peur de dire que je suis croyant, mais je ne fais pas de prosélytisme, évidemment. Je ne réagis pas en fonction de ma religion, et au contraire de ce que je verrai ensuite en Irak après l'arrivée des Américains, où les Irakiens, plutôt que mettre en avant leur irakité, si je puis dire, mettaient en avant leur confession sunnite, chiite, et ça, je trouve que c'est quelque chose de dommageable.
Et alors là, quelle position vous adoptez ? Vous êtes en porte-à-faux par rapport à eux, non ?
Mais de moins en moins. Aujourd'hui, la jeunesse irakienne veut remettre en avant l'identité. Il ne faut pas oublier qu'on a passé des années de guerre civile dans le pays, où milices sunnites et chiites se faisaient la guerre. Mmh. L'Irakien ou l'Irakienne qui a 20 ans aujourd'hui se moque réellement d'être sunnite ou chiite. Lorsque je leur parle, on me dit « ce qui compte, c'est l'Irak ». Et je crois que c'est la clé même pour la stabilisation du pays. J'ai vraiment espoir en cette génération qui cherche à reconstruire non seulement les rues et les bâtiments, mais avant tout l'identité irakienne.
Alors pour un seul majeur, je vous propose moi d'échapper à toutes les injonctions et à toutes les lois, sauf peut-être à celle de Léo, l'anarchiste.
À mes oiseaux piaillant debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutis et leurs fourreaux fleuris de trous. À mes compains du père assis, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leurs chemises aux givres des pernomines. À l'araignée, la toile au vent, à Biftek, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à Bec d'Azur du pif content qui crachait côté de Sancerre sur les midnights à moitié vert, chez un bistre de ses clients, aux spécialistes du chkoumoum qui se sapaient de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Bonde et Clown, au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nèfles, à ceux pour qui deux sous de trèfle, ça valait une cravena.
L comme langue maternelle.
Voilà un minuscule extrait en sol majeur sur RFI d'un manifeste poétique signé Léo Ferré. C'était en 70, c'est peut-être l'ancêtre du spoken word, je ne sais pas. Pour dire que vous êtes un faux doux, Ferhat Talhani. Une autre preuve après votre coup de poing dans la porte de la salle de bain de tout à l'heure, celle de ce verbe insurrectionnel que vous aimez.
Oui, je l'aime d'abord parce que mon père était lui-même fan de Léo Ferré. Et aussi parce que je crois qu'on peut, dans un cadre, être violent par les mots pour exprimer une colère, qui peut être une colère saine. Je fais un parallèle aussi avec la boxe, par exemple. On peut très bien être en colère et maîtriser sa colère avec cette violence contre un sac. Et je crois que c'est pareil avec les mots. Et donc, quelque part, Léo Ferré, notamment ce texte, décrivent, si vous voulez, une violence contenue et expriment quelque chose de sain.
Mmh. Et vous maîtrisez votre colère comment, vous, alors ?
Moi, c'est le sport. Je fais beaucoup de sport.
Vous êtes baraqué, hein, je vois ça. Faut pas vous chercher, hein, je sens.
On fait ce qu'on peut.
Et la poésie arabe, pour celui qui s'appelle Ferhat, est-ce qu'elle compte ?
Elle compte beaucoup. La poésie est quasiment un sport national en Irak. Il y a de très grands poètes qui ont marqué la poésie du monde arabe.
Ça veut dire quoi, Ferhat ?
C'est l'Euphrate. Donc l'Euphrate est le fleuve qui traverse l'Irak. Mon père a grandi le long de l'Euphrate. Il a failli se noyer dans l'Euphrate en essayant d'enterrer une pastèque dans le fleuve pour la récupérer bien plus fraîche plus tard. C'était la tradition.
J'adore cette histoire. Ah ouais.
Et donc mon père a failli se noyer dans ce fleuve, a grandi le long de ce fleuve et a tenu à rendre hommage à ce pays et à ce fleuve en me nommant ainsi.
Donc quand vous êtes en Irak, est-ce que par exemple, vous êtes bilingue, mais est-ce que vous êtes vraiment bilingue ? Est-ce que vous ressentez de la même manière ces deux langues ? Est-ce que par exemple vous employez l'expression « je te mets sur ma tête » ? En ressentant ce que ça veut dire. D'abord, il faut expliquer cette expression, c'est joli.
Donc en arabe, c'est « akhellik ala rasi ». Donc « je te mets sur ma tête », c'est en gros perdre de sa hauteur pour élever l'autre. C'est-à-dire, c'est une énorme formule de respect pour quelqu'un que l'on aime ou quelqu'un qui a fait un acte plaisant. Donc c'est une phrase que l'on entend beaucoup là-bas. Et moi, ce que j'ai aimé dans la langue, dans le dialecte irakien, c'est effectivement cette poésie, cette formule que... En tant qu'enfant, j'ai toujours vu comme une image. Donc dans la série animée, on voit un homme sur la tête d'un autre.
Et si vous racontez cette situation par exemple, si j'ai une montre qui vous plaît beaucoup, est-ce que vous allez dire spontanément cette fameuse phrase « Tiens, elle est à toi » ?
Ben, en Irak, oui, je le ferai. C'est quelque chose qui se dit, et si on ne le dit pas, c'est presque mal vu, c'est presque mal élevé.
En fait, la montre restera bien au poignet du propriétaire.
Exactement, c'est une formule. C'est comme lorsque l'on va, par exemple, en Irak chez le coiffeur et qu'au moment où il faut payer, le coiffeur dit « Non, non, c'est pour moi ouais. ». Mais évidemment, on paye.
C'est le fameux tarouf, comme on dit en Iran. C'est-à-dire, c'est des formules de politesse. C'est une surenchère de politesse, mais
exactement.
Chacun reste avec sa montre. Mais c'est une théâtralité, vous le racontez bien, qui peut être dangereuse hein, aussi.
Bah oui, en fait, moi je me rendais compte qu'à un moment donné, dans les restaurants irakiens, notamment dans les zones tribales, où l'honneur joue un rôle important.
Le nif.
Et le nif. Il y avait deux panneaux. Il y avait interdit de fumer, et puis à côté, interdit de se battre pour payer l'addition, pour faire simple. Parce que en gros, il y a des codes. Et moi-même, à un moment donné, j'oubliais cela. Je rencontrais par exemple des chefs tribaux, dans le cadre de reportage, et nous déjeunions et je voulais payer et certains me regardaient droit dans les yeux, me disaient surtout ne fais pas ça, ne fais pas ça, ce sera un affront.
Donc cette identité irakienne que vous revendiquez, professionnellement en tout cas, politiquement, est-ce que vous diriez qu'elle est naturelle chez vous ou ça a été une conquête ?
Elle n'est pas naturelle. Ça a été une conquête, je l'ai adoptée au fur et à mesure de mes voyages.
Est-ce que finalement, Ferhat Talhani, vous avez réglé cette fameuse question du syndrome de l'imposteur ?
Non, je ne pense pas. Je me sens toujours quelque part coupable d'être né en France, d'avoir eu le privilège, contrairement au reste de ma famille, de vivre dans un pays en paix, d'avoir eu accès à l'école de manière beaucoup plus paisible qu'eux. Et donc c'est quelque chose...
Même après votre parcours professionnel, même après avoir eu une arme sur la tempe pour exercer votre métier de journaliste, même après ce parfum d'Irak que vous signez, même après ce reportage, j'en ai cité un mais il y en a d'autres, sur les maladies congénitales en Irak à Fallujah ?
J'ai une dette en fait. Moi, j'ai le sentiment d'avoir une dette envers non seulement ma famille, mais envers les Irakiens de manière générale, pour l'accueil que j'ai reçu quand j'étais petit. Et une dette aussi parce que, encore une fois, je me sens coupable de ne pas être né là-bas. Et donc, tout ce que je fais, que ce soit ce projet, le parfum d'Irak, ou les enquêtes pour révéler des choses importantes en Irak, je l'ai fait pour rendre hommage aux Irakiens, mais aussi pour rembourser une dette, et que je n'ai pas fini de rembourser.
Un sol majeur @rfi.fr.
À lire chez Arte Édition, Le Parfum d'Irak, qu'on peut retrouver donc sous la forme d'une web-série documentaire. Je vous laisse désannoncer entre France 24 et Arte, Ferhat. Je vous fais
donc,
bosser.
La série Le Parfum d'Irak est web-diffusée en ce moment sur Arte. Les 20 épisodes sont disponibles. Et ensuite, sur l'antenne de France 24, à partir du 8 janvier, à raison d'un épisode par semaine.
Alors on va s'en pourlécher les oreilles encore une minute de cette version web-série pour refermer ensuite cet en sol majeur avec votre comparse This Is. Puisque la colère vous réunit tous les deux.
Tout à fait.
C'est ça ?
Exactement.
C'est le trait d'union.
C'est le trait d'union et nous sommes rencontrés grâce à Riyad Ashkitu qui est notre coach de boxe.
Un soir de 2004, chez ma tante à Bagdad. Des insurgés ont pris le contrôle de notre rue pour préparer une attaque. Objectif, le checkpoint principal du quartier, tenu par des policiers irakiens. L'attaque dure 15 minutes. 15 minutes d'enfer. Nous essayons d'être invisibles. On pourrait nous prendre pour des combattants. Personne ne dit un mot. À cette époque, pas une journée ne passe sans une explosion. La vie s'organise autour du conflit. J'ai dû apprendre le sens des bruits dans un pays en guerre. Ce bruit-là, tout proche, c'est le bruit de la peur. Une explosion à proximité ne pas sortir. Les tirs ont cessé. La bataille est finie. La guerre a ses bruits. Elle a aussi ses silences.
C'est l'imparfait, tous ces bonheurs que j'ai pas refait, toutes ces horreurs que j'ai enfouies. Mais sûr que je nique tout si c'est à refaire. Mais non, je mens, bien sûr que je m'enfuis. Hein. Avec le temps, tout partira. Sauf les blessures et les regrets.
En sol majeur avec Facebook, Twitter, en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. On se retrouve demain avec le réalisateur franco-tunisien Mehdi Benatia. À demain.